Bonjour, vous écoutez FILF, le podcast cinéma qui se demande fallait-il le faire. Je suis Alan et aujourd'hui c'est à moi de proposer une liste de films pour le vote de la semaine. Bonjour messieurs. Je suis trop tôt, non? La musique est encore... non, c'est pas grave. Bonjour Julien.
Bonjour Alan.
Bonjour Aymeric. Ah oui, Aymeric a toujours son extinction de voix depuis la semaine dernière. Enfin, depuis le dernier enregistrement. Mais c'est parce qu'on enregistre évidemment deux émissions en même temps. Mais il est bien présent, il est bien présent autour de la table, Aymeric. Bonjour. Il va essayer de... oui, alors ce bruit que vous avez entendu, c'était Aymeric. Il est bien présent et puis il va voter aussi pour le film. Donc, mathématique du vote, comme vous vous en souvenez, mais je le rappelle quand même, c'est autour du montage du film. On a parlé sur le vote précédent de la base du montage, d'où il était venu, etc. Et maintenant, je vais pousser un peu plus loin le montage. Le montage a bien évolué ensuite avec le temps et a permis beaucoup de choses. Et je vais parler donc de la complexité du montage, qui permet de rendre des histoires complexes et d'arriver à raconter des choses en deux heures, des histoires qui peuvent s'étaler sur parfois carrément des millénaires. Donc c'est aussi un peu la thématique de ma liste de vote cette semaine. J'ai parlé des films qui à la fois racontent plusieurs histoires et qui se passent sur des millénaires. Donc le premier film pour cette liste, c'est The Fountain, sorti en 2006, de Darren Aronofsky. Et le montage est de Jay Rabinovitch. Pas facile à dire. Tu fais une tête interrogative, Julien. Oui, en fait, je me suis dit, je vais proposer mes films... avec chaque truc que je parle du montage. Oh, j'arrive pas à m'exprimer, on est le matin. Alors.
Deuxième film.
Ouais, c'est dommage qu'on puisse pas couper le petit passage d'avant.
Oui, il faudrait couper. Outil, effectivement, pour séparer les prises en plusieurs et arriver à les recombiner de manière un peu différente. Pour arriver à faire quelque chose de fluide, raconter quelque chose, ça serait incroyable.
Ah, ça serait génial.
Ça serait inventé, je pense.
On pourrait l'appeler découpage.
Découpage, c'est bien.
C'est bien.
Pulsage. Puzzlage.
C'est bien ça aussi.
Ouais.
Parce que, justement, le montage, c'est un super outil, mais nous, on ne l'utilise pas pour ce podcast. Et c'est bien dommage. Donc, je vous rappelle la règle des six de Walter Munch. Walter Munch, c'est un monteur assez célèbre. J'en avais parlé dans l'ancien vote. Et puis, il a fait donc la règle des six. J'avais décrit les premières règles qui concernent la spatialité dans le montage, essayer de garder une cohérence spatiale. Maintenant, je vais parler de la quatrième règle, qui est la règle du eye tracking. Ou l'art de garder l'œil du spectateur attentif et où on veut sur l'image, en fait. Et c'est sur la transition des plans, sur la manière dont on monte les plans, on essaye de faire en sorte que le regard du spectateur soit dirigé. Spielberg est très très fort là-dedans. Il fait énormément de choses à ce niveau-là. Et on a aussi un réalisateur qui est assez bon sur l'eye tracking, c'est, j'ai oublié son nom, George Miller. Et c'est pour ça que mon deuxième film, c'est un film de George Miller. Je propose un film de George Miller. Donc, 3000 ans à t'attendre, qui a été spoilé sur WhatsApp à cause de Aymeric, qui a déjà regardé le film. Il est sorti en 2022 et le montage est de Margaret Sixel, qui est devenue la monteuse officielle, apparemment, de Miller sur ses derniers films. C'est elle qui a fait Mad Max, qui va faire aussi Furiosa, a priori, et donc qui a fait le montage de 3000 ans à t'attendre. Par exemple, pour ce côté de eye tracking, justement, Miller, si vous prenez Mad Max Fury Road, il y a un truc qui est très très rigolo, c'est que donc il fait un film d'action qui est très rythmé. Et George Miller s'est même pas embêté, en fait, il a centré tous ses plans, en fait, pour que ce soit le plus agréable à l'œil. Et vous regardez n'importe quel plan de Mad Max, le sujet principal est toujours au centre. Pour que ce soit beaucoup plus fluide et qu'il peut faire un découpage rapide, et ton regard, il bougera jamais du centre, en fait. Il aura toujours l'action en direct.
C'est aussi une méthode d'iconisation des personnages.
Ok, cool. Trop bien. Du coup, je réfléchis à cette info, mais ouais, ok. Alors, à quel niveau ? Parce qu'on peut iconiser avec... en mettant la caméra un petit peu en contre-plongée ou des choses comme ça, mais le fait de centrer,
le
ça iconise
de le centrer, qu'il soit toujours ton personnage central, c'est effectivement tout l'intérêt n'est pas ni dans le décor, ni dans les personnages à côté.
Ah
ni,
oui, ben, voilà. Exact.
C'est vraiment c'est faire ton icône, c'est ton centre.
Ah oui, c'est aussi mettre le décor un peu en arrière-plan, tout à fait. Ouais, bien vu. Alors, Emmerich nous dit quelque chose, il a une petite ardoise. C'est plus de la réalisation que du montage, non. Tu avais dit déjà la même chose la semaine dernière, enfin pas la semaine dernière, sur mon dernier vote par rapport à la spatialisation. Et effectivement, en fait, c'est lié. Ils vont tourner. En fait, il y a les deux. Tu peux travailler ça au montage énormément. Parce qu'il y a des plans que tu peux décaler, que tu peux recentrer. Mais effectivement, toute la mise en scène est prévue pour le montage derrière. En règle générale, un bon réalisateur sait ce qu'il va vouloir monter, sait qu'il va vouloir faire une suivi de regard. Les monteurs, des fois, ils peuvent rattraper certaines choses et garder quand même en tête le fait de... Parce que le monteur va raconter aussi. Mais généralement... une fois que toutes les scènes sont tournées, puis que les effets spéciaux sont en cours de route et tout, il y a une grosse période de post-production où le réalisateur et le monteur, limite, ils s'enferment tous les deux dans la salle de montage. Ça se passe souvent comme ça. Et ils bossent sur le montage tous les deux, ensemble. Le monteur, c'est vraiment il va énormément aider à la narration de l'histoire, mais il sera toujours avec le réalisateur. Et du coup, effectivement, c'est lié. Les deux sont liés. Donc, c'est une très bonne remarque, Emmerich. Merci.
Merci.
Donc, voilà pour mon deuxième film, 3000 ans à t'attendre, de George Miller. Et le montage, donc, au-delà de simplement coller les plans les uns après les autres, ça, c'est pareil, ça a beaucoup évolué avec le temps. Et on en est venu à faire des transitions très complexe. Il y a un petit truc qui bipe, mais c'est pas grave, c'est pas très grave. On en est venu à faire des transitions très complexes. Par exemple, des exemples tout simples, genre Star Wars, les transitions en slide de Star Wars, là, qui vont de gauche à droite, de haut en bas, ou des choses comme ça. On a des fondus, on a du match cut qui va allier deux plans qui ont un même pattern, une même forme ensemble. On va faire un fondu entre ces deux plans. Et on va raconter beaucoup de choses avec les transitions, mine de rien. Et c'est un exercice pas forcément évident. Il y a beaucoup de transitions qui font perdre qui peuvent décrocher de l'histoire, qui peuvent faire décrocher de l'histoire. Si tu fais beaucoup d'effets de transition, en règle générale, les monteurs évitent de faire trop d'effets de transition. Et il y a deux écoles là-dessus. Il y a l'école où les monteurs disent que le montage ne doit pas se voir. Et il y a l'école où les monteurs disent « Mais non, en fait, ce n'est pas vrai. Il faut que ça se voit. Il faut que ça tape à l'œil. » Mais voilà. Après, voilà, tout est un équilibre pour que le spectateur ne décroche pas de l'histoire. Et à ce niveau-là, au niveau des transitions de montage et tout, à la base, j'avais pensé à Speed Racer, les Wachowski ont vraiment bossé des transitions de montage au plus haut point dans ce film. Enfin, c'est assez hallucinant. C'est hyper intéressant à étudier à ce niveau-là. Mais ça colle pas dans ma thématique d'histoire qui se passe sur des millénaires. Donc je vous ai proposé à la place, toujours un film des Wachowski, Cloud Atlas, qui est sorti en 2012-2013. Et avec un montage de Alexander Berner. Alors lui qui a fait des choses assez étonnantes, il a fait autant Alien vs Predator en montage, qui est pas si mauvais au final, et il a aussi fait le montage du Parfum. Il a vraiment plein de films très différents à son arc, ce gars-là. Je vous ai pas fait les pitchs des histoires. Vous voulez que je vous fasse les pitchs des histoires ou...
Oui, oui, ça peut être intéressant.
Bon, ben, on verra ça après. J'ai encore un truc à raconter. Et le montage, la complexité du montage, là où on en vient, où ça pousse aussi le curseur plus loin, bah, c'est justement les effets spéciaux. Parce que le montage, c'est aussi les mélanges de plans en termes d'effets spéciaux. On va avoir un fond vert. Et on va mélanger deux plans ensemble, on va fondre deux plans ensemble. Ou le montage, c'est aussi... des fois, on va mélanger plusieurs prises. Vous savez que ça se fait pas mal, ça. Notamment Fincher fait beaucoup ça. Ils vont filmer plusieurs fois une même scène et ils vont prendre les meilleurs éléments de... Ça envoie des petits messages pendant que je parle.
Poursuivez, Alan.
Ouais, ouais. Donc Fincher fait beaucoup ça. Par exemple, dans Manque pour le film Manque, il a fait pas mal ça. En fait, il va réunir le meilleur de chaque prise. Par exemple, vous avez un plan fixe avec plusieurs éléments de composition d'image. Et du coup, l'image, il va dire tel spectateur dans l'estrade tourne la tête, donc ça va pas. tu fais un regard bizarre. Vous me perturbez bout de coup, en fait, là.
J'imagine comment... Donc, il fait des tests et puis il regarde ce que regardent les spectateurs.
Non, l'image finale, en fait, elle est composée de plusieurs plans, pris des différents rushs, en fait. Et ça, c'est possible aussi en montage de lier plusieurs plans, et puis ça se voit même pas après au final. Et du coup, par rapport aux effets spéciaux, mon dernier film que je vous propose, c'est Les Éternels, sorti en 2021 de Chloé Zhao. Donc, un des premiers Marvel que je propose, je crois. Et le film a été monté par Greg Wood et Dylan, j'arrive pas à me relire, Tichenor. Alors Greg Wood, pareil, c'est un monteur qui est incroyablement intéressant en fait, et c'est aussi pour ça que je propose Les Éternels, parce que Greg Wood, il a bossé sur Les Gardiens de la Galaxie par exemple, il a bossé sur Les Pirates des Caraïbes, et il a bossé aussi sur un film que Emmerich aime beaucoup, mais Emmerich pourra pas réagir, il a bossé sur Rango aussi également.
Oui, Rango.
Ouais.
Excellent.
Oui, meilleur western.
Et c'est le monteur qui a bossé sur le premier film d'Alex Proya aussi. Donc Craig Wood, c'est un monteur vraiment très très intéressant à suivre. Donc voilà, par ma thématique de montage, et puis voilà, j'espère que c'était suffisamment clair ce que je racontais, et puis pas trop ennuyant. Pour les pitchs des films, donc tous parlent d'histoire. C'est comme je disais, en même temps, ils parlent tous de la même chose. C'est plusieurs histoires condensées sur des millénaires. Tous ces films-là parlent de la même chose. Peut-être un peu moins Les Éternels, et encore, quoique. Mais c'est à chaque fois des personnages qui traversent des milliers d'années, et puis on découvre plusieurs histoires au cours de ces milliers d'années. Donc c'est des films un peu anthologiques, mais pas tout à fait. Tu verrais ça comment tu verrais, j'ai pas trouvé le genre, comment on appelle ce genre-là, en fait. Tu t'appellerais ça comment?
Anthologie, pour premier long à t'entendre, déjà plus.
Ouais, ouais, mais pas complètement, parce que c'est quand même une histoire qui se tient, c'est quand même des films anthologiques. Bon... Cloud Atlas, c'est aussi un film anthologique, on peut dire.
Non, parce que là, c'est trois histoires en parallèle.
Plus enfin, ces six histoires, Claude.
Six histoires en parallèle avec des moments différents dans le temps, mais... Donc, ouais, c'est des... Non, j'ai pas de nom pour ça, effectivement. Ouais. Ce serait intéressant de trouver quelque chose.
Le film de Aronofsky, c'est pareil. Je crois que c'est plus ou moins trois histoires en parallèle, si je dis pas de bêtises. Et Les Éternels, c'est quand même une histoire, mais il y a... Il y a quand même des...
Des flashbacks.
Des petits flashbacks et puis des petites histoires en parallèle, mais qui se grèvent vraiment à l'histoire principale. Voilà, messieurs, c'est à vous de voter, du coup.
Bah merci, Alan, pour toutes ces explications. C'était vraiment très intéressant. Du coup, on a choisi 3000 ans à t'attendre.
C'est vrai. Direct. Même pas... Les Éternels, ça aurait été assez intéressant à traiter.
Mais attends, intéressant comment ?
Bah parce qu'il y a... Y a pas mal de trucs à dire sur le film, en fait. Le film est un peu décrié et a raison sur certains points, mais il a quand même de très très bons arguments aussi derrière. Et je trouve que pour un fallait-il le faire, Moi, il y a des trucs que je sauve dans Les Éternels, mais ces trucs que je sauve m'agacent aussi énormément parce que c'est pas poussé suffisamment loin dans le film. Et en plus, on peut parler de plein de trucs sur les directions artistiques des Marvel et tout ça. Et puis, on n'a jamais trop parlé de Marvel. À un moment donné, il faudra qu'on s'y mette. Mais, voilà. Pas de Aronofsky. J'ai toujours pas vu, moi, le The Fountain.
Alors, je pars sur 3000 ans à t'attendre. Parce que les trois autres, je les ai vus. Et je les ai trouvés super chiants. Enfin, The Fountain, j'ai vraiment... Enfin, j'ai lutté pour aller...
Je ne sais pas si vous entendez Emmerich. Donc Emmerich dit qu'il trouve les autres films assez pénibles.
Long.
Et
j'ai lutté pour aller au bout de The Fountain. J'ai lutté pour aller au bout de Cloud Atlas aussi.
Non.
Je sais.
Tellement bien, Cloud Atlas.
Okay.
Et toi, Julien, pourquoi
il aurait peut-être mérité une série, Cloud Atlas. Hein. Aujourd'hui, il serait tourné plus comme ça plutôt qu'un film.
Ah non, mais je le trouve super comme il est. Mais bon, ça après. Mais oui, en série très bien, mais je suis même pas sûr.
Parce que Les Éternels, j'imagine qu'il y a plein de choses à dire dessus, mais c'est pas le bon film Marvel pour faire une entrée en matière. Ce serait. Attaquer sur toutes les faiblesses alors que...
Ben non, pas forcément, justement, c'est intéressant.
Ben, ouais, ok. Cloud Atlas, ça m'aurait plu, pour le coup. Le traité, j'aurais bien voulu. The Fountain, je pense que c'est le seul que je connais pas, donc c'était mon premier choix quand on a échangé nos petits panneaux. Sachant que 3000 ans d'attente, il y avait forcément plein de trucs à dire dessus et ce serait un plaisir de le traiter.
Ouais. Mais je suis d'accord, hein, 3000 ans d'attente, c'est très intéressant et la question de fallait-il le faire se pose parce qu'on en avait déjà parlé un petit peu il y a très longtemps en termes de narration, justement entre images et histoires contées et tout. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on part là-dessus alors ? 3000 ans à t'attendre sur. C'est votre dernier mot. Ok. Bon, bah, à te juger pour 3000 ans à t'attendre.
Merci, Alan.
Merci.
Merci à vous, messieurs. À bientôt. Et merci de nous écouter. Et n'hésitez pas à regarder le film parce qu'on spoilera évidemment la semaine prochaine.